C'est toujours une joie de nous retrouver, de chanter la gloire de Dieu et d'ouvrir le Saint-Livre ensemble. Nous allons ouvrir dans l'Évangile de Jean. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Évangile de Jean, chapitre 20e. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chapitre 21e, verset 24e de ce même livre. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Si je veux me rappeler l'histoire de Jean dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 16e, il est écrit comme Jésus passait le long de la Galilée. Jésus qui passe. Et ses yeux se portent sur deux hommes, Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Je ne suis pas un pêcheur. Oh! Fut un temps prendre une ligne et rester là, oui, essayer de prendre un poisson, mais là, des professionnels, Jésus les vit. Et la Bible nous dit que Jésus leur dit, « Suivez-moi, marchez derrière moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Un changement, même filet si on peut dire, mais que ce n'est plus des poissons, mais des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Aussitôt, ils laissèrent leur filet le suivre. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui, eux, aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Là, ils sont en train de réparer. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. En l'espace d'un clin d'œil, on remarque quatre hommes sont, suite à la parole de Jésus, deviennent des disciples. Il est allé dans le monde de la pêche. Ça a dû déstabiliser quatre hommes qui sont partis. Mais quelle nouvelle vie! Nous ne connaissons point le ou les plans de Dieu à notre égard. Mais une chose est importante, c'est que de son ciel de gloire, Jésus nous voit. Jésus nous voit et il sait ce qu'il peut et ce qu'il veut faire, et aussi ce qu'il veut investir dans l'être humain. Et ce Jean, on remarque que cette précision, cet amour pour l'Écriture, on voit avec quelle qualité il va présenter ces choses. Et quand il écrit, il pense aux hommes et aux femmes qui vont lire ces choses. Et il se dit, toutes ces choses qui ont été écrites, c'est pour que vous croyiez. Croyez non point seulement dans les choses, mais que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ce qui m'émerveille dans cette lecture, c'est que Jésus, il a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Et quand, dans la deuxième partie de notre lecture, Jean va dire que le Seigneur Jésus a fait beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Je ne sais pas si vous aimez les livres, mais je suis toujours attiré par la bibliothèque, par une bibliothèque. Toujours. Par exemple, quand je lis l'histoire, je lis que dans telle ville, telle capitale, au temps du Seigneur, ou quelque temps après le Seigneur, il y avait une bibliothèque avec 250 000 livres. Je me dis, j'aurais voulu voir cette bibliothèque. Quand j'apprends, lorsque je vais à l'ITB, nous avons plus de 10 000 livres dans notre bibliothèque, et j'apprends qu'à quelques kilomètres dans la ville de Bordeaux, il y a une bibliothèque de confession religieuse qui a plus de 100 000 livres. C'est formidable. On est émerveillés. Ça réjouit. C'est formidable. C'est formidable. Quand j'étais jeune prédicateur, jeune pasteur, il y avait le frère Butler qui en 1972 nous disait qu'un pasteur avait 2000 livres dans sa bibliothèque. Et je crois qu'ils sont arrivés à pas loin de 6000 livres à l'heure actuelle. C'est formidable. C'est extraordinaire. Et donc, si on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir tous les livres que l'on écrirait. L'apôtre Paul pouvait dire « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Dieu a voulu absolument, dans l'Ancien Testament, que les choses soient écrites. Écrit. Écrit. les paroles s'envolent, les écrits restent. L'écrit, c'est quelque chose qui nous attire. L'écrit. Il y a beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, on remarque tous les miracles. Les guérisons, premier miracle dans la cellule familiale, toutes ces choses extraordinaires. Il a sélectionné des miracles pour montrer l'autorité spirituelle, montrer aussi que Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. C'est le nom de Jésus. C'est cette personne de Jésus qui nous donne la vie et la vie éternelle. N'allons pas retracer tous les miracles dans l'évangile de Jean. Mais ce qui nous amène, c'est de croire, d'être fortifié par la foi, de savoir ce que Jésus a pu faire il y a 20 siècles, les choses se produisent encore aujourd'hui. Et que de la même manière, le Seigneur est celui qui veut se révéler à notre cœur. Et de par le monde entier, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle se répand. Et le livre le plus vendu, le plus répandu de par le monde entier, c'est la Bible, c'est le livre de Dieu. Le verset 24e du chapitre 21e, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Il le dit, c'est ce disciple, c'est moi. Et c'est moi qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et je voudrais surtout m'arrêter sur ce qu'il a écrit, l'apôtre Jean, même le concernant. Le chapitre 20e de l'évangile de Jean nous montre quelque chose de pénible, de difficile à vivre. C'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait que le tombeau de Jésus est scellé. Jésus est à l'intérieur. Et Marie de Magdala, elle se rend. Jésus est mort, mais il y a encore de l'amour pour Jésus. Même quand les personnes sont décédées, il y a toujours un amour qui se manifeste. Non plus de la même manière, mais il y a un souvenir présent, vivant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, avec Jésus, il y a cet amour réel, vrai, vécu. Et la Bible nous dit que quand elle se rend de ses pulls dès le matin, il fait encore très sombre, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Lorsque nous sommes allés à Jérusalem, nous sommes allés dans le jardin, on a vu le Golgotha. Bien sûr, nous avons réalisé que le lieu n'est peut-être pas important, mais certes, il est important. Parce que c'est au Golgotha, c'est une forme de crâne, forme de Golgotha. Et nous nous sommes retirés quelques mètres en arrière et le Golgotha, en réalité, était à quelques mètres du sol. Et je me suis dit, des milliers de croix ont été dressées, des hommes et des femmes ont été crucifiés, et notre Seigneur Jésus fut aussi lui crucifié. Puis nous étions là, tout de suite par rapport à sur la gauche, il y avait ce jardin, et puis ce tombeau. Historiquement, ça se prouve que c'est bien l'endroit où Jésus est mort, le Golgotha, et puis là aussi, le tombeau. Nous avions visité d'autres lieux religieux. Ce n'était pas du tout la même ambiance, la même odeur par rapport à tout ce que l'on pouvait, l'encens et autres. C'était calme, c'était paisible. Puis nous sommes, avec mon épouse, rentrés à l'intérieur. Et nous nous sommes dit, Jésus devait être de cette taille. Mais peu importe la taille, c'était l'endroit où Jésus avait été. Je suis ressorti, et puis à nouveau j'ai voulu rentrer. Je suis rentré. Ce n'est pas à partir de ce moment-là que je croyais, mais je me suis dit, tu as annoncé ça dans bien des parties du monde, et aujourd'hui tu vois ce que tu as annoncé. C'est merveilleux. Nous avons regardé, nous avons contemplé quelque chose de vide, mais qui était une réalité. C'était extraordinaire. Et lorsque nous sommes entrés, par déférence, j'ai dit à mon épouse, c'est fait partie comme vous, entre la première. Mais personne n'a fait marche arrière. Et pourtant, Jean nous révèle quelque chose. C'est que Marie, quand elle vit que la pierre a été ôtée du sépulcre, et puis qu'il n'y a plus le corps, sait plus où il est, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il y a là un bouleversement extraordinaire. Une femme qui court. Elle devait courir plus rapidement qu'à l'habitude. Un événement extraordinaire. Et Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble. C'est Jean qui écrit cela, dans les moindres détails. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier disciple au sépulcre. Jean a voulu que ça soit marqué. Saurait-vous, peut-être vous auriez dit, non, ça ne sert à rien de marquer ça. Mais c'était écrit, Jean a voulu que ce soit écrit. Et la Bible nous dit, il arriva le premier au sépulcre, les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. À Jean, il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. C'est drôle. C'est un adulte qui parle. C'est un adulte. Il voit le tombeau, il voit les lins, mais il n'entre pas. Tandis que Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il a vu tout l'ordre qu'il y avait à l'intérieur. Il a regardé tout cela. Vous savez, il y a des choses qui sont émouvantes dans la vie. Il y a des choses qui vous marquent. Sur le plan spirituel, il y a des choses qui nous marquent. Il y a des choses qui sont gravées dans notre tête. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. s'était baissé, et là il est entré. Et la Bible dit, et il vit, et il crut. Tout le temps qu'il était à l'extérieur, non point qu'il était dans l'incrédulité, mais il a fallu qu'il fasse le pas. Faire seulement un pas pour voir. Oh, les vêtements, ça a marqué. Il vit, il crut. Mais dans leur tête, la résurrection de Jésus ne comprenait pas. Ils s'en retournèrent chez eux, marqués. Il y a des événements, comme je disais, qui marquent, des choses extraordinaires. Quand on est placé devant le surnaturel, on est marqué par Dieu. Le surnaturel nous marque. La présence de Dieu nous marque. Des choses nous ont marqués lorsque nous sommes venus. Nous avons été marqués par le surnaturel de Dieu. Dieu a marqué notre vie de sa grâce, de son amour. Nous ne sommes peut-être pas entrés le premier. Quelqu'un d'autre a osé entrer le premier. Mais j'en dis, c'est moi, c'est mon expérience. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit, c'est moi. Et c'est moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que vraiment ça a bouleversé ma vie. Et on retrouve encore cette femme qui revient. Marie, près du sépulcre, elle pleure. Elle se baisse. Et tout à coup, elle vit deux anges. Deux anges vêtus de blanc, assis à la place où Jésus avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Dieu veut que notre vie soit marquée. Parce que Dieu sait quel est le premier poison. Un poison, c'est mortel quand on y goûte. C'est le doute. C'est le doute. Est-ce vrai? Et Dieu a voulu que nous soyons marqués par le surnaturel. Femme, pourquoi pleures-tu? Il pose la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Parce qu'ils ont enlevé le corps de mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Cette femme, elle pleure. Et c'est vrai que quand un corps est décédé, qu'il n'est pas remis à la famille, on ne peut pas commencer son deuil. Les gens sont placés devant un dilemme. Mais quand on a le corps, on peut commencer son deuil. Je ne sais où ils l'ont mis. On est à la recherche de son corps. Mais où est-il? Quelle est l'orientation? Et en se retournant, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » C'est drôle que c'est important que Jésus veut qu'on soit bien éclairé sur notre foi, que notre foi soit bien éclairée. Elle pensait que c'était le jardinier. C'est drôle que quand on a le chagrin, on ne voit plus les choses de la... On peut ne plus voir les choses de la même manière. Quand elle voit cet homme, elle entend sa voix. Mais elle pense que c'est le jardinier. C'est le jardinier. Le chagrin est quelque chose qui envahit le cœur de cette femme. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Je ne sais pas si Jésus était grand, petit, peu importe. Mais dans la souffrance, nous sommes capables de dire des choses dont nous ne pouvons pas les accomplir. Prendre Jésus dans ses bras. L'amour, la souffrance nous fait faire des choses ou penser à faire des choses impensables. Mais à un moment, quand Jésus lui dit « Marie, quelque chose se produit. Marie, quelque chose vient toucher. » Il dit en hébreu « Rabouni ». Cette voix si forte, si percutante, va bouleverser sa vie. Et cette femme va recevoir en quelque sorte le message. Va vers mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu, vers mon Dieu et votre Dieu. Une femme qui part dans la joie. Peu importe. On est émerveillé que cette femme, dont on connaît comment Jésus l'a guéri, comment Jésus a transformé sa vie. C'est elle qui va être chargée d'aller annoncer le message de Jésus. Jésus ne voit pas comme nous, ne pense pas comme nous. Il est souverain dans ses actes. Il délivre le message à qui il veut. Il l'a délivré à Marie. Marie de Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est Jean qui écrit ces choses. Il est témoin. Il écrit. Il n'a pas besoin, comme nous dit le livre des Actes et le livre de Luc, de rencontrer des témoins oculaires. Faire des recherches comme l'historien. Bien au contraire, c'est le disciple de Jésus. C'est celui qui a suivi Jésus. C'est celui qui, en réalité, s'est couché sur la poitrine de Jésus. C'est celui qui a entendu la voix de Jésus. Il connaît Jésus dans son intimité. Un jour, je me trouvais au Tchad. Il y avait un pasteur qui avait connu un missionnaire. Il me dit « Monsieur un tel ». Et comme ils sont plusieurs, portant ce nom dans la famille de pasteur, « Comment va-t-il ? » Et je lui dis « Il est mort. » Délicatement. Et je vois son visage de noir devient troublant. Il est mort. Et il me dit, mais comment va-t-il tel? J'ai dit, il est vivant. Ah, ah. Je lui dis, mais c'est son papa qui est décédé. Et c'était quand j'ai dit, c'est son papa, ah, il a compris que c'était pas lui. Notre visage a une réaction. Dans ce même endroit, on va saluer le chef du village et le chef des cantons. Et puis, je connaissais son frère. Son frère était le président des assemblées de Dieu du Tchad, de l'endroit. Et puis, il avait un problème de cécité. Et la personne que j'accompagne dit, c'est le missionnaire maréchal. Il dit, c'est celui qui est venu là il y a 40 ans. Alors, je lui dis, oui, son visage s'est illuminé. C'est drôle comme les réactions intérieurement. Il m'a dit, il faut revenir, vous n'avez pas achevé votre travail. Mais là, Jean écrit. Il est témoin oculaire sans recherche. Il sait ce qu'il vit. Et le soir de ce jour, ils sont rentrés dans une maison. Ça vient de se produire. Les portes du lieu se trouvaient, les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Fermés, barricadés. Jean fait partie de ceux qui sont enfermés, barricadés à cause de la crainte des Juifs. Les pleurs, la crainte de rentrer, la crainte des Juifs, la crainte. Et là, ils avaient peur des Juifs. C'était pas facile. Vous lisez dans la Bible, l'Épître aux Romains, je crois, Priscille et son mari, qui là ont été chassés de Rome parce qu'ils étaient Juifs. Quand vous lisez tout cela, il fallait partir. Et là, ils avaient peur. Ils faisaient partie de ceux qui étaient avec Jésus. Les portes étaient fermées. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Un jour, quelqu'un de l'assemblée m'a dit, « Est-ce que vous avez peur ?» Il y avait le terrorisme là. Quand vous allez, et je venais du Tchad, j'ai répondu tout le temps que je dors, j'ai pas peur. Ben oui, quand je dors, j'ai pas peur au Tchad. Hein. Mais quand je suis réveillé, je suis très vigilant. Parce que moi qui n'avais jamais eu peur, je suis méfiant maintenant. Vous comprenez? Quand on dort, on dort. Mais quand on est réveillé, on est vigilant. Et eux, ils étaient vigilants. Et tout à coup, quelqu'un leur apparaît et leur dit « La paix soit avec vous. » Ses mains, son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est extraordinaire. Quand Jésus vient ôter la crainte. Et c'est Jean qui le dit. Il dit, j'avais une crainte. J'avais la peur. Je craignais les Juifs. Et Jésus va les libérer de la crainte. Et bien aimé, si Jean a pu dire cela, nous sommes fermés, barricadés. Et là, Jésus, il nous dit, ne crains point, crois seulement. Je suis là. Il nous montre ses mains, son côté. Il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui nous encourage. Il est celui qui nous enveloppe de sa grâce et de sa paix, de sa protection. Et les uns et les autres, nous avons vécu la protection du Seigneur. Et nous la vivrons constamment parce que le Seigneur est celui qui en réalité veut que nous poursuivions notre marche avec lui. Et Jésus va les libérer de la crainte. Il va remettre le message, la mission, le pardon, la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit, les disciples, mais ils étaient 10. Il n'y en avait que 10. Il en manquait un. C'était Judas, il n'était plus. Il manquait Thomas. Et à partir de là, Thomas, il fallait le gagner. Il fallait le ramener. Et la Bible dit que les disciples sont allés voir Thomas. Thomas était un des leurs. Et on dit, nous avons vu le Seigneur. 10 disent la même chose. Nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons vu, le Seigneur. Il est vivant. Il nous a montré ses mains. Il nous a montré son côté. Nous avons entendu sa voix. Il nous a donné le message. Nous avons vu le Seigneur. Thomas, il faut que tu viennes avec nous. On a ce rendez-vous avec le Seigneur. Il faut que tu viennes avec nous, Thomas. On ne peut pas te laisser sans toi. Il faut que tu viennes avec nous. Et Thomas dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans mon côté, je ne croirai point. Les disciples sont là dans la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'avec Thomas, on s'en va vers la rupture. Rupture fraternelle. Rupture du ministère. Rupture de la foi. On se reverra. Mais plus le temps passe, quand on revoit quelqu'un de longues années, « Ah, vous avez vieilli. Ah, vous avez changé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Ben oui. Et c'est tout. Le temps nous a éloignés, ne nous a jamais rapprochés. Pas pour moi personnellement. C'était là ce grand drame. Thomas, il faut que tu viennes avec nous. Thomas, viens avec nous. On ne peut pas te laisser là maintenant, Thomas. On a vécu 3 ans et demi de choses fortes, Thomas. Il est ressuscité, Thomas, c'est sûr. La Bible nous dit, 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus connaît le problème de Thomas. Et Jésus, les portes fermées, se présente au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Quelle délicatesse, notre Seigneur. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule et crois. Vous avez vu que ce n'est pas long. Et tout de suite, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a vu. Thomas a vu. Il a vu, Thomas. Quelle grâce. Jésus dira, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est important. C'est important. Jean, il a écrit en détail ces choses pour notre bien. Il dit, oui, je ne suis pas rentré le premier. Je suis arrivé le premier, mais je ne suis pas rentré le premier. La Bible ne nous donne pas d'explication, mais il n'est pas rentré. Il est rentré après. Et c'est quand il est rentré qu'il vit et le crut. Il a vu cette femme. Il a entendu à nouveau cette femme. Oui, Thomas était... Jean était aussi dans la maison enfermée. Et il a vu ensuite Thomas. Toutes ces choses ont été écrites pour que nous soyons solidement ancrés dans la foi. Son témoignage est vrai. Les miracles sont vrais. Les miracles sont réels. Réels. Dieu soit béni pour le miracle. Dieu soit béni. Dieu soit béni pour le miracle. Nous prions pour nos petits parce qu'ils ont la foi, ils grandissent. Mais ils ont besoin d'être visités par Dieu. Ils ont besoin d'être visités par le Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Jean, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous encourage. Et que son nom soit glorifié. Amen. Gloire à toi, cher Seigneur. On pourrait chanter Jésus. C'est le plus beau nom.